Et les matins se poursuivent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'immigration en France débattue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors que l'opposition de droite réclame des actes, à gauche on dénonce une forme d'instrumentalisation du thème, une volonté de faire du pied à l'extrême droite. La majorité aussi se déchire sur la question, nous dira Rosalie Lafarge.
La crise politique après l'attaque de la préfecture de police de Paris.
Christophe Castaner doit-il démissionner? C'est la question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique juste après ce journal. Alors que le ministre de l'Intérieur a reconnu des failles après l'attaque de la préfecture, de nombreuses question subsiste. Comment sa radicalisation a-t-elle pu passer inaperçue dans son dossier administratif alors qu'il avait accès aux informations classées secret défense? Nous entendrons le président de la délégation parlementaire qui interrogera le ministre de l'Intérieur.
L'affaire Karachi devant la justice aujourd'hui. Le procès s'ouvre 17 ans après l'attentat qui avait fait 15 morts dans cette ville du Pakistan sous fond de soupçons de rétrocommission pour le financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995.
Et puis dans ce journal, nous irons aussi en Tunisie où seulement 40% des citoyens ont voté hier pour les élections législatives. Reportage de notre correspondante Maureen Mercier dans un instant. Mais on commence avec cette information. France Culture, un nouveau plan de licenciement menacerait 230 emplois en France dans l'entreprise Bona Sabla. Son nom est peut-être peu connu. Il s'agit pourtant de la société numéro 1 de béton préfabriqué. Elle est employée notamment pour les tunnels en béton de la ligne Grand Paris Express. Cette entreprise employait 3000 personnes il y a seulement quelques années avant de perdre près de 2/3 de ses effectifs. Les salariés manifestent aujourd'hui sur le site historique de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines.
Ils ont un peu l'impression de crier dans le désert. Les employés de Bona Sabla, propriété du groupe Consolis, lui-même propriété du fonds d'investissement Bain Capital, ont pourtant participé aux plus grandes réalisations de génie civil de ces dernières années. Le MUCEM à Marseille, la fondation Vuitton ou le métro parisien. Et pourtant, le groupe prévoit encore de se séparer de sites et de personnel. À chaque plan social, des raisons économiques sont invoquées. Mais cette fois, les salariés sont plus que dubitatifs. Thierry Duquesne est délégué CGT du groupe.
On sait de nos directeurs d'usine, au niveau local, les résultats étaient en train de remonter. Bon, ça, c'est aussi une incompréhension parce que même les directeurs le disent, je ne comprends pas pourquoi l'avoir fait maintenant. Nous, on pense que c'est calculé la baisse d'activité. Comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on fait en sorte de diminuer les activités pour justifier un plan social.
Le dialogue avec la direction de l'entreprise, presque entièrement constituée de managers de transition, comme on les appelle, était bloqué jusqu'à ces derniers jours. Et la situation des personnels est inquiétante, estime l'avocat du CSE central, maître Thomas Novali.
Les salariés utilisent de l'eau, du sable, ils travaillent dans un environnement poussiéreux. Et ils utilisent également des adjuvants. De ce point de vue-là, les conditions de travail sont extrêmement dures. Les salariés sont âgés et beaucoup sont éreintés par leurs conditions de travail. Le contexte de ce nouveau PSE était extrêmement anxiogène. Les risques psychosociaux sont caractérisés.
Autre inquiétude des syndicats, la faiblesse des moyens accordés aux mesures d'accompagnement de ce PSE au regard de la taille du groupe et le sentiment qu'ils sont en train de connaître le même sort que d'autres sociétés démantelées par Bain Capital, Samsonite ou Toys R Us. La direction du groupe n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Anne-Laure Chouin et ce fonds d'investissement Bain Capital qui avait racheté donc l'entreprise Bona Sabla en 2017 appartient à Mitt Romney, l'ancien candidat à l'élection présidentielle américaine. C'est un sujet ultra sensible qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'immigration, un débat voulu par Emmanuel Macron. Les échanges s'annoncent explosifs, pas seulement du côté de l'opposition. Au sein de la majorité aussi, le sujet divise Rosalie Lafarge.
Les marcheurs auront du mal à parler d'une seule voix aujourd'hui.
Je ne suis pas complètement sereine.
Pas sereine, Cécile Rilhac, la députée du Val d'Oise, redoute ce débat.
Cela peut entraîner des discussions qui amènent à monter les uns contre les autres et donc qui fassent le lit du rassemblement national. Il y a véritablement dans ce débat la possibilité de prendre de la hauteur, de se poser les vraies questions, à savoir comment est-ce qu'on traite les questions d'immigration d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est pas simplement en France, au niveau européen, mais au niveau mondial.
Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face, a lancé le président Emmanuel Macron devant les députés LREM il y a 3 semaines, mais chacun au sein de la majorité a sa façon de le regarder en face, ce sujet. Delphine Bagary est députée des Alpes de Haute-Provence.
Arrêtons de stigmatiser et dire que c'est un problème. C'est une richesse, c'est une chance. Et on veut le dire aussi, on veut le porter, politiquement on veut le porter.
Avec plusieurs de ses collègues, elle a signé 2 tribunes mi-septembre pour mettre en garde face à l'hystérisation des débats et la nécessité de préserver l'aide médicale d'État. Et s'il partage cet avis, Olivier Véran, député de l'Isère, prône tout de même la tenue de ces échanges.
Je pense que l'immigration est une chance, mais qu'il faut en parler. À force de ne pas en parler, on finit par mettre un espèce de voile honteux sur la question. Donc, d'un débat sur l'immigration peuvent émerger beaucoup de choses. Un discours positif sur l'immigration est une chance pour notre pays. Un discours de restriction qui dit attention, comment est-ce qu'on est capable d'accueillir les gens aujourd'hui. C'est tout cela dont on doit débattre.
Le président du groupe, Gilles Legendre, a nommé plusieurs orateurs au sein de la majorité pour ce débat. Parmi eux, Aurélien Taché et Stella Dupont, deux députés de l'aile gauche. Et ça fait grincer des dents en interne. Si on se laisse diriger par notre minorité, siffle une marcheuse de la première heure, on finira comme le PS.
Le débat commencera à 16h dans l'hémicycle. Faut-il changer le droit des étrangers en France? C'était l'objet du reportage de la rédaction ce matin. Un reportage à réécouter sur franceculture.fr.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. 4 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, de nombreuses questions restent sans réponse.
Pourquoi le dossier administratif de l'agent qui a tué 4 de ses collègues ne mentionnait-il pas sa radicalisation alors que des policiers avaient déclaré en 2015 qu'il avait salué les attentats de Charlie Hebdo? Et comment un agent qui avait montré des signes de radicalisation islamiste a-t-il pu continuer à avoir accès à des informations classées secret défense? Le ministre de l'Intérieur a reconnu hier des failles, des dysfonctionnements. Christophe Castaner sera auditionné à huis clos demain par la délégation parlementaire au renseignement. Le tueur a-t-il pu transmettre des renseignements à l'extérieur, par exemple? Voilà le genre de questions que compte poser le président de la délégation, Christian Cambon.
À quelles données sensibles, secrètes, confidentielles, confidentielles défense, cet agent de maintenance informatique a eu accès? Parce que si vous êtes agent de maintenance informatique, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais vous rentrez dans des disques durs, vous rentrez dans des logiciels, vous pouvez accéder au contenu. Il faudra qu'on nous précise s'il y a eu des doubles clés, des sécurités supplémentaires qui permettent à un agent de maintenance de pas être en contact avec les données sensibles. Vous pourriez avoir des listes d'un certain nombre d'agents et puis surtout quelle utilisation il a pu en faire. Parce que là aussi, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et qui sont des questions très graves, car la délégation parlementaire au renseignement, elle s'occupe de la sécurité de nos agents, du bon fonctionnement des agents de renseignement, et ce sont ces dysfonctionnements que l'on va essayer d'identifier avec le ministre.
Christian Cambon, président de la délégation parlementaire, avec Cyril Gradiani. L'affaire Karachi devant la justice aujourd'hui, 17 ans après l'attentat qui a fait 15 morts dans cette ville du Pakistan, dont 11 employés français de la direction des chantiers navals qui travaillaient à la construction de sous-marins. C'est le volet financier qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Retour sur cette affaire tentaculaire avec Florence Turm.
En 1994, la France conclut 5 gros contrats d'armement, 4 avec l'Arabie Saoudite, un autre avec le Pakistan. À l'époque, l'État a souvent recours à des réseaux d'intermédiaires destinés à convaincre les dirigeants étrangers. Ces intermédiaires perçoivent d'importantes commissions qui ne sont pas alors considérées comme illégales. Mais dans ce dossier, les juges soupçonnent qu'une partie de l'argent versé a, en réalité, opéré un aller-retour pour revenir financer, et cette fois de manière illégale, la campagne électorale d'Edouard Balladur. C'est ce que l'on appelle les rétrocommissions. Son ancien directeur de campagne, Nicolas Bazire, Renaud Donnedieu de Vabre, ex-conseiller de François Léotard, et Thierry Gobert, alors membre du cabinet du ministre du Budget Nicolas Sarkozy, sont suspectés d'avoir mis en place un réseau inutile puisque les contrats d'armement étaient en fait quasiment acquis. Le fameux réseau K, K pour King, en référence au roi d'Arabie Saoudite, réseau rémunéré par le biais de sociétés basées dans des paradis fiscaux. Les deux intermédiaires du réseau K se retrouvent eux aussi sur le banc des prévenus, notamment le sulfureux homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Au cours de l'instruction, il a multiplié déclarations et contre-déclarations et affirmé avoir remis à 3 reprises des valises de billets à la demande de ses interlocuteurs politiques qui nient farouchement cette version des faits. Reste une coïncidence troublante, le dépôt de plus de 10 millions de francs en espèces sur le compte de campagne d'Edouard Balladur, 2 semaines après un retrait équivalent opéré en Suisse par le même Ziad Takieddine.
Florence Thion pour France Culture.
8h09 sur France Culture. Amertume et désillusion en Tunisie. Seulement 40% des citoyens sont allés voter hier pour les élections législatives.
Oui, pour les deuxièmes élections parlementaires de l'histoire du pays depuis la révolution de 2011. Le taux d'abstention frôle effectivement les 60%. Et si les sondages à la sortie des urnes se confirment, les islamistes du parti Ennahda l'emportent devant le parti de Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné et toujours candidat à l'élection présidentielle devant les partisans de l'ancien régime. Un scrutin douloureux pour la société civile tunisienne à Tunis. C'est un reportage de Maureen Mercier.
Pour la société civile, c'est un coup d'assommoir. Les islamistes des Narda, même s'ils perdent presque la moitié de leur siège, seront la principale force du Parlement, suivie du parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, surnommé le Berlusconi tunisien, en prison soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. La troisième place revient à celle qui se revendique de l'héritage de Ben Ali, Abir Moussi. Frech Fenich, expert international en droits de l'homme et activiste au sein de la société civile tunisienne, tente d'encaisser la nouvelle.
Bon, j'espère qu'ils ne vont pas se mettre tous les trois d'accord pour constituer un gouvernement d'escrocs. Les trois partis ne représentent pas les aspirations du peuple tunisien, ne répondent pas aux demandes de la révolution. Ils sont en train de reproduire le même modèle de développement qui a échoué pendant 23 ans, le clientélisme, le népotisme et l'intérêt personnel.
Si les Tunisiens se réveillent aujourd'hui avec un parlement qui ne leur ressemble pas, c'est parce qu'ils se sont, pour une grande majorité, abstenus de voter pour sanctionner la classe politique. Un choix qui risque de se retourner contre eux.
Je ne pense pas que la classe politique a reçu le message. La jeunesse n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Et ceci est très grave pour les prochaines années. Parce que cela pourra provoquer la création ou l'émergence de mouvements contestataires très violent et automatiquement il y aura une confrontation.
La Tunisie suspendue aux résultats définitifs qui doivent tomber d'ici mercredi.
Maureen Mercier, élection législative aussi au Portugal hier et c'est le Premier ministre socialiste sortant António Costa qui remporte ce scrutin selon des résultats quasiment définitifs avec près de 37% des suffrages. Il obtiendrait 106 sièges sur les 230 que compte l'Assemblée sans majorité absolue. Pour autant, un seul allié devrait suffire. Le bloc de gauche s'est déjà dit bien disposé hier soir. Aux États-Unis, un nouveau lanceur d'alerte se dit prêt à témoigner contre Donald Trump alors que le président américain est sous le coup d'une procédure en destitution lancée par les démocrates. Une mise en accusation après le coup de téléphone passé fin juillet entre Donald Trump et son homologue ukrainien. Conversation durant laquelle Trump avait demandé des informations sur son adversaire politique Joe Biden. Au moins un autre lanceur d'alerte a demandé à être entendu par la commission du renseignement. L'étau se resserre un peu plus autour du président américain. À Washington, Grégory Phillips.
Le premier lanceur d'alerte, celui qui mi-août avait saisi l'inspection générale du renseignement, avait expliqué dans sa plainte qu'une demi-douzaine d'officiels travaillant à la Maison Blanche l'avaient interpellé sur le contenu de ce coup de téléphone entre Trump et Zelensky. C'est sans doute l'un d'eux qui à son tour a témoigné devant l'inspecteur général. Comme pour son collègue, son anonymat est protégé. L'avocat qui le défend dit simplement que cet homme ou cette femme est aussi employé du renseignement américain et qu'il ou elle a eu un accès direct aux informations concernant cet échange téléphonique entre les deux dirigeants. La Maison Blanche répond que peu importe le nombre de lanceurs d'alerte, le président n'a rien fait de mal. Mais le site d'information politique Axios affirme de son côté que vendredi dernier, Donald Trump a confié à une poignée d'élus républicains son inquiétude d'être placé sous le coup d'une procédure d'impeachment. Trump redoute d'entrer dans les livres d'histoire comme le troisième président des États-Unis à subir un procès en destitution devant le Sénat. Andrew Johnson, en 1868, et Bill Clinton, en 1998, avaient finalement été tous les deux blanchis par les sénateurs.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Extinction Rébellion, c'est le nom d'un réseau de militants écologistes qui prévoit une semaine d'actions non violentes dans près de 60 villes dans le monde. Une organisation née il y a un an en Grande-Bretagne, elle prône la défense du climat par la désobéissance civile et la désobéissance symbolique, Cécile Cavazdoué.
Ce sont les lieux de pouvoir et d'argent que visent ces actions directes. L'idée ? Occuper les lieux et inviter les politiques dans des assemblées citoyennes pour obtenir des actions concrètes et rapides pour la protection de la planète. À Londres aujourd'hui, les militants veulent donc bloquer durant 15 jours le quartier du Parlement de Westminster. Alison Brunfitt en sera.
Ce que nous disons, c'est que le pouvoir a besoin de retourner au peuple et que l'argent doit financer des solutions durables pour tout le monde. Et cela passe par une réforme de notre système économique, de notre système agricole, par la fin des énergies fossiles. Il faut économiser nos ressources. Alors ça ne veut pas dire détruire l'économie, ça veut dire la rendre plus juste, parce qu'en fait, nous n'avons pas le choix.
D'où l'urgence de forcer les politiques à dire la vérité sur la réalité de l'état de la planète, mais toujours avec le même mot d'ordre, la non-violence. D'ailleurs, D'ailleurs, pour cette raison, en Espagne, les activistes d'Extinction Rébellion ont choisi de monter une action festive. C'est ce qu'explique Nicolas Eliades.
Ça, c'est vraiment révolutionnaire, car il s'agit de protester, non pas avec colère, mais avec amour. Bien sûr, le système nous a trompés, mais nous avons produit ce système qui s'appuie sur nos égoïsmes. Et la beauté de ce jour, c'est qu'à travers le monde, des gens vont sortir dans la rue, quelle que soit leur différence, parce que nous sommes tous dans le même bateau.
Une éco-mobilisation mondiale qui a le soutien de la militante suédoise Greta Thunberg.
C'est Cécile de Kervasdoué. Il était une institution au sein du Metropolitan Opera de New York. Le ténor italien Marcello Giordani est décédé hier. Il avait 56 ans. La météo, des nuages qui alterneront avec le soleil presque partout aujourd'hui, mais sans pluie, seule la Bretagne et l'Alsace devraient connaître quelques ondées aujourd'hui. Du soleil en revanche au bord de la Méditerranée. Les températures moyennes sont comprises ce matin entre 12 et 21 degrés, avec 12 degrés à Amiens, 14 à Paris, 18 à Lyon et jusqu'à 21 degrés à Nice, Guillaume Hermier.